Les cours du Collège de France, Sonia Garel, chaire neurobiologie et immunité.
Bonjour et merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi d'attaquer cette saison de cours de la chaire neurobiologie et immunité. Et cette année, on va vraiment un petit peu se déplacer. On était beaucoup focalisé sur le cerveau, le système nerveux les années précédentes. Et là, on va se déplacer. On va aller s'intéresser aux interactions entre le système nerveux et le système immunitaire à la périphérie, dans le corps, et comment ces interactions vont interagir avec le cerveau. Donc vraiment, des interactions neuro-immunitaires à la périphérie, on va regarder en périphérie, et puis comment ça interagit avec le cerveau. Alors, pourquoi ce sujet? D'abord, je vais vous dire que c'est une thématique qui s'étale sur 2 ans. On va aborder certains aspects cette année et d'autres aspects l'année prochaine. Comment est-ce que ça s'inscrit finalement dans les cours précédents? Donc, on s'est beaucoup intéressé à ces deux systèmes, le système nerveux et le système immunitaire, qui, bien qu'ils régissent les interactions d'un organisme, d'un individu avec le monde extérieur et de manière différente, ont été beaucoup étudiés, on va dire, de manière séparée. Et pourtant, ce sont deux systèmes qui sont très importants pour la physiologie des individus, mais aussi qui interviennent dans un grand nombre de pathologies. Et en fait, la raison, une des raisons à cela, qu'on a vu au cours des derniers cours, c'est le mythe que le cerveau, en particulier, était un organe isolé vis-à-vis du système immunitaire, ce qui avait été appelé dans les années 20-30 le privilège immunitaire, parce qu'il y a très peu de cellules circulantes du système immunitaire qui rentrent dans le cerveau, parce que le cerveau est protégé, et la moelle épinière, par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Il n'y a pas de système lymphatique, le cerveau n'est pas, n'est pas subi à une surveillance immunitaire intense. Et on a vu au cours des dernières années qu'en fait, il existe toute une série d'interactions neuro-immunitaires dans et autour du cerveau qui sont clés, qu'il n'y a pas de système lymphatique, mais il y a un système lymphatique, qu'il y a des cellules immunitaires dans le cerveau, et j'y reviendrai, qui jouent un rôle, qu'on a toute une catégorie de cellules immunitaires autour du cerveau et du système nerveux dans les méninges, et qu'on a des interactions avec les cellules immunitaires circulantes dans la circulation sanguine et les méninges, qui sont absolument essentielles pour le fonctionnement et les pathologies cérébrales. Cette espèce d'écosystème neuro-immunitaire se met en place vraiment au cours du développement, on a vu ça, avec des cellules immunitaires, les macrophages, les microglies, qui rentrent très tôt, qui se développent en symbiose, et cette barrière aussi se met en place, et on a en fait une interaction très importante entre les cellules immunitaires présentes ou autour du cerveau et des interactions avec des neurones, des macrophages, des microglies. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je crois qu'il y a de la place encore, n'hésitez pas. Donc, des interactions neuro-immunitaires qui vont réguler l'activité des circuits, et cette symbiose neuro-immunitaire est finalement modulée par différents signaux, des signaux locaux, mais aussi des signaux venant du corps, des signaux systémiques comme l'inflammation, et donc tout ce qu'on va étudier cette année dans le cadre de l'inflammation périphérique va aussi avoir une importance. Et l'environnement externe, des infections, des virus, mais aussi du microbiote. Donc, un espèce d'écosystème au niveau du cerveau, de la moelle épinière, des méninges clés, influencé par des signaux externes, et dont on a vu que des dérégulations pouvaient contribuer, participer et parfois être causales dans différentes pathologies, des pathologies neurodéveloppementales comme les troubles du spectre autistique ou des pathologies neuropsychiatrique, mais aussi et majoritairement des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la sclérose en plaques, etc. Alors cette année, on va se déplacer un tout petit peu et on va aller regarder ces interactions neuro-immunitaires, plus nécessairement vraiment dans le cerveau ou autour du cerveau, mais à la périphérie, et s'intéresser à comment ces interactions peuvent dialoguer avec le cerveau, moduler les propriétés cérébrale du système nerveux, mais également comment est-ce que le cerveau ou des propriétés, on va dire, nerveuses peuvent moduler, influer sur le système immunitaire et sur l'immunité. Donc le cours de cette année est divisé en quatre. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à, on va dire, de l'anecdotique au systémique. C'est un cours d'introduction. On va regarder les nouvelles perspectives. On va s'intéresser un petit peu à un historique. Comment est-ce que ces interactions neuro-immunitaires périphériques ont émergé, notamment tout au long du XXe siècle, avant d'aborder plus tard dans les cours ce qui est vraiment extrêmement récent. Et l'idée est vraiment de montrer que ces interactions existent, comment elles ont émergé, pourquoi elles ont émergé lentement, comment et pourquoi est-ce que ces, on va dire, 15-20 dernières années, on a eu une explosion de connaissances dans ce domaine, quelles sont les implications aussi de ces connaissances. Le 2 juin, on verra vraiment les bases de ce dialogue, puisqu'il y a un dialogue, système nerveux, système immunitaire. Comment est-ce que ces deux grands systèmes communiquent, aussi bien à l'échelle moléculaire, cellulaire, anatomique, et dans des conditions physiologiques et pathologiques. Et puis après, le 16 juin et le 23 juin, on verra finalement deux exemples extrêmes. Un qui est vraiment comment est-ce que de manière locale, des neurones sensoriels et des cellules immunitaires interagissent dans la peau. On verra que là, le dogme vraiment du fait que c'est le système immunitaire qui détecte, par exemple, les bactéries, les virus, les pathogènes, est vraiment quelque chose qui a complètement explosé dans cette région. Et puis, on va s'intéresser à des processus, par exemple, qui sont des processus pathologiques, l'eczéma. On va voir aussi comment est-ce que des bactéries qui sont situées dans la peau peuvent utiliser ou détourner les interactions non immunitaires pour, entre guillemets, proliférer et vraiment faire des choses dévastatrices dans ce domaine, etc., etc. Donc on va s'intéresser aussi à la démangeaison, à la douleur, dans un système périphérique, les interactions neuro-immunitaires. Et puis complètement à l'autre spectre, on finira un dernier cours, cette fois-ci, pour essayer de comprendre, de regarder comment est-ce que le cerveau perçoit toutes ces informations immunitaire venant du corps, en abordant un nouveau concept qui s'appelle l'immunoception, c'est-à-dire comment est-ce que notre cerveau est capable de représenter tous ces signaux immunitaires qui viennent de la périphérie. Donc, deux extrêmes, on va dire, comment est-ce que ces interactions ont lieu dans un contexte très très local et périphérique et comment ça influe sur la douleur, la démangeaison, les infections, l'immunité. Et puis, on va dire un effet inverse, comment est-ce que le cerveau est capable d'intégrer ces informations. Et l'année prochaine, on approfondira d'autres aspects, notamment tout ce qui est en lien avec l'interaction entre les intestins et le cerveau, pour regarder ce qui se passe en local et ce qui remonte, on va dire, de manière centrale. Et on s'intéressera également plus spécifiquement à la douleur. Voilà. Je voudrais insister sur le fait que le 20 juin, on aura aussi un symposium avec des spécialistes du domaine qui parleront un petit peu de ces thématiques-là et qui s'intéresseront aux interactions corps-cerveau dans le contexte neuro-immunitaire. C'est un symposium qui est en anglais, mais tout le monde est le bienvenu, donc avec des spécialistes de différents aspects des thématiques qui seront abordées. OK ? Voilà, c'est le menu, on peut attaquer. S'il y en a qui finalement se sont trompés d'amphithéâtre, c'est le moment de c'est le moment de sortir. Bonjour, bienvenue. Vous avez raté le menu, mais donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment avoir un cours introductif et je vais passer assez rapidement sur des aspects qu'on a vus pour aussi essayer de ne pas perdre tout le monde pour parler du système nerveux et du système immunitaire, de ce qu'on a, de comment l'approche historique finalement de ces deux systèmes a fait qu'on les a étudiés de manière séparée, et surtout utiliser ce rappel historique pour présenter des propriétés de chacun de ces systèmes qui vont être importantes dans la considération qu'on pourra avoir de leur interaction. Ok, donc l'anatomie, bien sûr. Une anatomie du système nerveux qui a été décrite depuis finalement très longtemps, avec un système nerveux central, donc qui est composé du cerveau et de la moelle épinière, un système nerveux périphérique, qui est en fait formé d'un ensemble de nerfs et de ganglions répartis dans le corps, qui vont former le système nerveux somatique, qui est capable d'effectuer, de contracter les différents muscles et de médier tout ce qui va être sensation, douleur, toucher, mais aussi démangeaisons, etc., donc des neurones sensoriels, et puis un système qu'on appelle autonome qui va innerver principalement les organes et d'autres facteurs. Et on verra la semaine prochaine plus en détail ces différents systèmes. Donc un système compliqué, et depuis Galvani et bien d'autres, on sait que l'information dans le système nerveux en fait est médiée par de l'électricité, donc l'électricité qui circule le long des nerfs. On sait aussi que les circuits ont été décrits au niveau anatomique par Santiago Ramón y Cajal et bien d'autres. La théorie ensuite cellulaire de différents scientifiques a permis vraiment de montrer que des neurones ont des composés cellulaires, vont envoyer des axones, vont récupérer des informations via différentes connexions, des points de connexion qu'on appelle des synapses, et émettent des influx nerveux le long des axones. Ce qui veut dire que les nerfs qui circulent dans le corps sont en général, et en grande partie, sauf des certaines exceptions, formés par des paquets d'axones qui viennent de neurones situés dans des ganglions ou, par exemple, dans la moelle épinière ou dans le tronc cérébral. Et donc, une chose clé aussi, c'est que la transmission de l'influx nerveux est souvent médiée le long d'axones, qui peut être entourée d'une gaine de myéline, qui est une gaine lipidique, qui permet une transmission accélérée. Le codage de l'information est fait en fréquence d'événements qui s'appellent des potentiels d'action, des dépolarisations de la membrane. Et au point de contact, les synapses, chez les mammifères, en fait, l'information est relayée cette fois-ci par un neurotransmetteur, donc une molécule chimique qui agit sur des terminaisons postsynaptiques. Et ça permet énormément de choses. Ça permet une certaine rapidité, une capacité d'intégration, etc. Et ici, c'est juste pour illustrer. Une des choses qu'on verra la semaine prochaine, finalement, ce sont des réflexes, qui sont des réflexes essentiels pour maintenir l'intégrité physique des individus. On peut avoir des réflexes qui vont permettre d'enlever, par exemple, un membre quand il y a une brûlure ou d'autres événements. Et on connaît ça depuis très longtemps. Ce sont des circuits. Il y a eu aussi une science en parallèle qui a été très importante pour essayer de comprendre les propriétés essentielles du système nerveux, qui sont la mémoire et l'apprentissage, l'anticipation, et qui ont été ciblées sur la science du comportement. Et là, je vais juste citer quelques expériences clés parce que je vais revenir dessus. Donc, le comportement a été énormément étudié, et notamment des expériences menées par Ivan Pavlov ont vraiment permis de montrer qu'on pouvait avoir des réponses stéréotypées, conditionnées, notamment induites chez l'animal. Donc, ces expériences, vous les connaissez en grande partie. On a associé un stimulus inconditionnel de la nourriture, présente un steak, qui va permettre de faire saliver l'animal. C'est une réaction, on va dire, inconditionnelle. Et on va associer un stimulus qui, au départ, est neutre, qui est le son d'une cloche. Au départ, il ne se passe rien. On a une phase de conditionnement ou d'apprentissage, où le stimulus inconditionnel, le steak, est présenté en même temps que la cloche. Et ça va permettre, après conditionnement ou ce qu'on appelle apprentissage répondant, à obtenir uniquement avec le son de la cloche une réponse conditionnée qui va être la salivation, même s'il n'y a pas de steak. Donc on a de nombreuses expériences, même très tôt au cours du XXe siècle, ont vraiment permis de montrer comment est-ce que les circuits neuronaux étaient capables de médier différents types de comportements, comme par exemple le conditionnement. Un autre aspect du système nerveux dont on va beaucoup parler cette année, c'est le stress, une notion qui a vraiment été introduite par Hans Selye, notamment à partir des années 30. Et le stress est considéré par Hans Selye comme l'ensemble des moyens psychologiques et physiologiques, ou plutôt physiologiques et psychologiques, mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné, donc 1925. Et en fait, le stress est un processus extrêmement important qui a permis d'étudier au niveau du comportement énormément de choses et qui, en fait, est la première étape pour associer des perturbations qui peuvent être d'ordre physiologique et des perturbations d'ordre psychologique qui peuvent converger sur des voies liées au système nerveux et au cerveau et qui ensuite peuvent, de manière conjointe, synergique, antagonistique, avoir un effet sur la physiologie. Et donc ça, c'est vraiment une notion qui va revenir puisque dans la modulation du système immunitaire, on va avoir une composante qui va pouvoir être modulée par le stress. Donc dès les années 30, Celi induit présente donc un système particulier, enfin, ce qu'il appelle le syndrome général d'adaptation, qui est la réaction d'alarme, détection d'un stress, la résistance face à ce stress, et éventuellement, s'il n'y a pas résolution, une situation d'épuisement qui va finalement potentiellement aboutir à ce qu'on appelle un stress chronique. Donc la notion de stress aigu et de stress chronique où il y a épuisement et où il n'y a jamais résolution de ces événements. Donc ça, on est vraiment là, on est dans les années 30, 40, 50, 60. Donc on voit que déjà, on a des bases absolument fondamentales qui ont été mises en place et bien sûr, je ne vous parle pas de tout ce qui a été fait par la suite, qui est vraiment la caractérisation des propriétés du système nerveux, du cerveau, au niveau physiologique, électrophysiologique, etc. Je voulais juste faire ce petit rappel historique, puis présenter les données pour insister sur des aspects caractéristiques du système nerveux. Donc la rapidité, l'influx nerveux va très vite. Et ça permet, par exemple, d'avoir des réflexes rapides qui vont permettre, par exemple, encore une fois, de retirer sa main si elle est en contact avec du feu. Une capacité d'intégration, la manière dont les circuits sont organisés, les synapses, les connexions nerveuses vont permettre d'intégrer un grand nombre d'informations et d'aboutir ensuite à une réponse coordonnée. Mémoire et apprentissage. Ça veut dire qu'il y a une capacité, au-delà, on va dire, de tout ce qui peut être inné comme comportement, d'apprendre de tout ce qui se passe et de moduler une réponse en fonction de ce que l'individu a vraiment vécu. Adaptation et anticipation, et ça, c'est quelque chose qui est très particulier, finalement, au système nerveux. Quand je parle d'adaptation et d'anticipation, quand on pense aux expériences qui ont été menées et aux conclusions qui ont été apportées par Pavlov, finalement, le son d'une cloche, parce qu'il a été associé dans le passé à, dans ce contexte-là, une stimulation positive, une récompense, est capable de déclencher une réponse. Donc il y a une anticipation de quelque chose qui va se passer qui peut être positif. On sait qu'on peut avoir exactement la même chose dans un contexte, par exemple, de danger ou de quelque chose de négatif. Le système nerveux, par rapport à ce qu'il a vécu, un apprentissage, une expérience, un conditionnement, est capable de produire une réponse de manière anticipée. Là encore, on peut imaginer que ce sont des choses qui sont importantes, essentielles pour la survie d'un individu dans des contextes dans lesquels ils peuvent faire face à un manque de ressources, différentes menaces, des contraintes, mais aussi, par exemple, dans un contexte positif où il sait qu'il va falloir manger, se reproduire, avoir une activité, même si elle est positive, qui va influer ou avoir des demandes physiologiques particulières. Voilà pour le système nerveux. Pour le système immunitaire, finalement, les débuts du système de l'immunologie ou de l'étude du système immunitaire, ce qui est intéressant aussi pour comprendre comment est-ce que les concepts, les idées se sont forgées dans ce domaine d'étude, l'étude vraiment du système immunitaire s'est faite dans dans le contexte de la vaccination et de la théorie microbienne. Donc c'est vraiment les travaux de Louis Pasteur, d'Eli Metchnikoff et de Paul Ehrlich qui ont permis de commencer à comprendre comment est-ce que dans un contexte d'une infection ou dans un contexte d'une vaccination, le système immunitaire peut protéger ou agir dans le contexte finalement d'une défense contre un agent pathogène. Et alors là, je fais un énorme saut dans le temps jusqu'à maintenant, puisque les différents travaux de ces trois pionniers et d'énormément d'immunologistes depuis ont permis d'aboutir à une vision de ce qu'est une réponse immunitaire dans un contexte d'infection. Donc on a une première réponse qui va faire intervenir ce qu'on appelle l'immunité innée. L'immunité innée fait intervenir des cellules, on en a parlé ces dernières années, des cellules qui vont être capables de produire une défense qui n'est pas spécifique de l'agent pathogène rencontré. Donc ces cellules de l'immunité innée, je vais en parler dans quelques minutes, sont les premiers les premiers intervenants dans la réponse immunitaire. Ils vont être absolument essentiels et ils vont limiter donc les premières phases de l'infection. Ils vont aussi être clés parce que ce sont eux qui vont activer une deuxième phase qui est beaucoup plus lente et qui est une phase qu'on appelle la phase d'immunité adaptative, qui fait intervenir d'autres types de cellules, d'autres mécanismes, notamment les lymphocytes B et T, qui, eux, vont spécifiquement être capables de lutter contre un pathogène donné. Et on va avoir, sur encore le plus long terme, une mémoire des agents pathogènes qui ont médié cette infection. Et c'est d'ailleurs cette mémoire qui est à la base de la vaccination, puisque l'idée de la vaccination est de créer une première exposition à un pathogène pour créer une réponse mémoire, pour que cette réponse adaptative puisse arriver beaucoup plus vite. Alors, les cellules de l'immunité innée, qu'est-ce qu'elles font? J'ai pris l'exemple d'un macrophage, mais il y a d'autres cellules dendritiques, d'autres cellules. C'est des cellules qui peuvent être résidentes ou se promener dans les tissus. Et elles sont capables, elles ont des récepteurs qui leur permettent de reconnaître différents composés sur des bactéries, des virus, mais aussi de capables de reconnaître des débris qui sont issus de cellules endommagées par exemple par des virus. Donc via ces récepteurs, elles sont capables de réagir de manière non spécifique à ces composés. Quand je dis non spécifique, c'est-à-dire que par exemple, elles ont des récepteurs qui leur permettent de reconnaître des composés des bactéries gram-négatives, on en reparlera, le lipopolysaccharide, donc LPS, qui est une molécule qui est présente dans la membrane de ces bactéries. On a un récepteur, et beaucoup d'espèces animales ont un récepteur qui leur permet de détecter des bactéries. Et ça permet, ce composé permet parfois de mimer une infection bactérienne. Donc au travers de ces récepteurs, on a une reconnaissance. Il va y avoir plusieurs choses qui vont se produire, on a d'autres types de récepteurs, c'est que ces cellules vont se mettre à produire ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires, et j'y reviendrai, des molécules qui vont être produites et agir localement, mais aussi de manière circulante, des cytokines comme des interleukines, TNF-alpha, interférons, etc., qui vont créer ce qu'on appelle de l'inflammation. Et là encore, j'y reviendrai. Et puis, elles sont aussi capables d'internaliser, notamment les bactéries, mais d'autres composés, des cellules endommagées. Ça permet de nettoyer, d'empêcher justement de nettoyer des débris cellulaires, mais aussi d'éliminer la source d'infection, par exemple les bactéries ou les virus. Et cette internalisation et le fait que la cellule casse en petits morceaux les agents pathogènes, va lui permettre de présenter ces fragments à d'autres cellules de l'immunité adaptative, les lymphocytes, qui, eux, vont être activés et réagir. Et donc, ces cellules de l'immunité adaptative sont des cellules qui subissent une expansion, une diversification, Je ne vais pas revenir sur le processus de génération de tous ces différents récepteurs qui sont capables, a priori, de reconnaître à peu près tous les antigènes possibles et imaginables. Donc ça, c'est formidable. C'est un processus, on va dire, de diversification moléculaire tout à fait fascinant. Et donc, on a la capacité de reconnaître a priori tous les antigènes présents, ou une grande partie. Ces antigènes sont présentés par les cellules de l'immunité innée. Et on va avoir, dans ce contexte-là de présentation, une expansion clonale. Et ce sont ces cellules qui vont vraiment avoir une fonction effectrice. Tuer les cellules infectées, produire des anticorps ciblant spécifiquement cet antigène, etc., etc. La mémoire. Et quand on re-rencontre, si on a des lymphocytes mémoire, quand cet antigène est re-rencontré, l'amplification de ces cellules va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus directe, ce qui explique donc la vaccination. Alors je dis, ces lymphocytes peuvent reconnaître tous les antigènes, en fait ce n'est pas complètement vrai, il faut absolument limiter ou empêcher ces lymphocytes de reconnaître des antigènes qui sont présents sur les cellules de notre propre organisme ou de l'organisme des individus concernés. Pourquoi ? Sinon, le système immunitaire attaque l'organisme et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc, dans ce contexte-là, il est vraiment important d'éliminer ça et le système immunitaire est aussi un système qui est capable de faire la différence entre ce qu'on appelle le soi, le non-soi, et de répondre donc à du danger ou à insuffler une tolérance. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que c'est un système qui est assez différent du système immunitaire par rapport à son organisation, et j'y reviendrai. C'est un système qui implique de multiples types cellulaires, des cellules capables de phagocyter, d'autres qui sont des lymphocytes, qui sont dans des régions différentes, qui patrouillent les tissus ou qui sont très localisées. Donc des interactions entre différents types cellulaires et qui vont également organiser une distribution, une circulation, une surveillance immunitaire et vont se retrouver quand même dans certains lieux, certains ganglions, certains organes lymphoïdes où on va avoir présentation d'antigènes, mémoire, activation, etc. Donc un système qui est dispersé et systémique. Et ces deux phases, finalement, sont essentielles et sont essentielles pour comprendre des particularités du système immunitaire qui, là encore, vont être clés dans la compréhension des interactions neuro-immunitaires. La temporalité, et si on veut résumer, on a une première phase, vraiment, où on a une réponse qu'on va appeler, qui implique l'immunité innée, qui est une réponse inflammatoire, et qui va être essentielle pour activer une réponse qui est beaucoup plus lente, qui est cette immunité adaptative. C'est un système qui est lent, donc extrêmement lent, mais qui est terriblement efficace, dans le sens où une fois que l'immunité adaptative est activée, une fois que les lymphocytes sont activés, ils vont être, encore une fois, terriblement efficaces. C'est vraiment le bras effecteur du système immunitaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il y a vraiment la nécessité d'avoir des freins à chacune des étapes d'activation de l'immunité adaptative. Il existe des freins pour ne pas que ce système s'emballe. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand ce système s'emballe, on va se retrouver dans des cas pathologiques d'auto-immunité où le système immunitaire se retourne contre l'organisme. L'autre aspect, c'est que si ce système immunitaire a véritablement été caractérisé, étudié en profondeur pendant de longues années dans un contexte infectieux, en fait, on sait maintenant, et puis il y avait déjà des études, notamment d'Eli Metchnikoff, qui montraient que c'est un système qui est absolument essentiel au-delà de la défense contre les agents infectieux. C'est-à-dire, le système immunitaire est essentiel dans un contexte de réparation de tissus. C'est un des premiers systèmes importants pour réparer des tissus qui sont lésés. On verra ça dans le contexte de la peau. C'est également un système qui est très important, par exemple, pour éliminer des cellules qui ne sont pas très en forme au cours du vieillissement ou dans des contextes, par exemple, de développement de processus cancéreux ou de processus de formation de tumeurs dans différents types de cancers. Les cellules immunitaires sont normalement capables de reconnaître des cellules qui se mettent à devenir cancéreuses et à les attaquer. Et les cancers, ou différents types de cancers en général, sont très très forts ou très très fortes les cellules pour former ou influer sur l'environnement local pour produire un environnement, un micro-environnement qui est anti-inflammatoire et donc qui va éteindre complètement la réponse immunitaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des traitements qu'on appelle des immunothérapies où on essaye de booster le système immunitaire qui va être dans l'environnement de la tumeur. Donc un système qui peut être modulé, qui est important, qui intervient dans un grand nombre d'événements et dans pratiquement un grand nombre de pathologies. Donc un système qui est lent mais efficace et qui a des freins. Et on y reviendra dans les interactions neuro-immunitaires. Donc comme je le disais, c'est des systèmes qui ont historiquement été étudiés en parallèle parce que la barrière hémato-encéphalique, donc une séparation entre le cerveau et la circulation sanguine. Mais finalement, au-delà des caractéristiques et des différences, c'est quand même des systèmes qui ont des grandes similarités et des grands points de convergence. C'est des systèmes qui sont très efficaces pour coder ou transmettre de l'information. C'est des systèmes, et ça j'en ai pas du tout parlé, mais on en a parlé un petit peu, peut-être on en reparlera, qui subissent au cours de la vie une éducation et qui sont capables de définir une norme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la normalité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Aussi bien dans le système nerveux que dans le système immunitaire, l'environnement pendant les premières phases de la vie va être absolument essentiel pour définir ce qui va être la norme de ce qui est, une ligne qui va permettre de définir ce qui est la normalité d'activation. Notamment, le microbiote dans le contexte système immunitaire va être très important pour dire voilà ce qui est un niveau tolérable qui doit être toléré au niveau du système immunitaire. Dans le contexte du système nerveux, on va avoir des événements, des structures, être confronté à des expériences qui vont, entre guillemets, être considérées comme étant normales et qui vont permettre de forger ensuite le reste du système. Par la suite, on va vraiment avoir apprentissage et mémoire tout au long de la vie. Et finalement, deux systèmes qui sont très importants parce qu'ils sont clés dans l'adaptation à l'environnement et finalement à la préparation à ce qui est complètement inconnu. Et donc deux systèmes essentiels et importants pour la survie et l'adaptation d'un individu dans un écosystème particulier. Ok, donc après toutes ces généralités, on va continuer un petit peu avec un aspect historique, donc des choses qui sont un petit peu de l'ordre du rappel, mais qu'on va aborder de manière un petit peu différente. Donc je vous ai parlé de ces deux systèmes qui ont vraiment initialement été étudiés en parallèle, mais en fait, depuis extrêmement longtemps, on sait que les deux systèmes ont des interactions croisées. Et finalement, ce domaine d'étude qui est la neuro-immunologie ou les interactions neuro-immunitaires a eu une émergence relativement lente. Et je voudrais revenir sur certains événements ou certains domaines d'études clés, notamment pendant, on va dire, le XXe siècle, pour résumer. On va repartir un petit peu dans l'Antiquité, mais le XXe siècle, et on va s'arrêter à peu près en 2000, puisque c'est ce qu'on verra dans les cours par la suite, et de voir comment est-ce que toutes ces études, finalement, ont permis d'établir qu'il existe des interactions neuro-immunitaires et de commencer à les comprendre. Et donc, on va dire une passerelle vraiment essentielle dans les interactions neuro-immunitaires au niveau du corps, ça a été l'étude de l'inflammation. Alors, qu'est-ce que c'est l'inflammation ? L'inflammation, C'est vraiment un processus qui a été caractérisé depuis l'Antiquité. C'est une réaction stéréotypée face à une agression externe, alors une infection, un trauma, mais ça peut être aussi une allergie, on verra ça dans la peau, ou alors des agressions internes des tissus, une lésion interne, des cancers, etc. C'est un exemple ici, et ça a été caractérisé et décrit comme dolor, calor, rubor, tumor, fonction lésée, ça a été ajouté après, douleur, chaleur, rougeur, œdème, et perte de fonctionnalité. Et c'est une réponse universelle des tissus qui a été bien décrite depuis, encore une fois, l'Antiquité et au niveau cellulaire qui a vraiment été bien caractérisé par Rudolf Virchow au XIXe siècle qui avait déjà à peu près tout compris. Donc un processus universel d'inflammation, tous les tissus. La douleur, qui est un processus nerveux, est un signe cardinal de l'inflammation. Donc on a une lésion, on a une infection, un des facteurs induits est la douleur. Alors je voudrais juste préciser que pendant extrêmement longtemps, on a pensé que la douleur associée à une inflammation venait soit d'une lésion, soit du fait que ça gonflait, mais n'était pas directement liée à une interaction neuro-immunitaire. Et puis donc, énormément d'études qui ont été commencées par Virchow qui ont montré qu'en fait l'inflammation est un processus biologique complexe qui fait intervenir aussi bien l'immunité innée qu'adaptative. Et c'est vraiment en essayant de comprendre l'inflammation tout au long du XXe siècle qu'on a commencé à réaliser l'importance des interactions neuro-immunitaires. Et la première étape, finalement, ça a été d'identifier, de mettre en évidence que les cellules immunitaires qui participent à cette réaction inflammatoire produisent des facteurs qui médient cette inflammation et caractériser ces facteurs a permis de montrer que certains de ces facteurs agissent directement pour provoquer une réaction douloureuse. Donc depuis les années 30 jusqu'aux années 90, on a eu une caractérisation des différents facteurs. Alors l'histamine, qui est très importante dans l'allergie, on y reviendra. Mais par exemple, la bradykinine, qui régule directement l'activation des fibres nerveuses, donc des nerfs, présents par exemple dans la peau, et qui vont médier la douleur. Donc on a une réponse inflammatoire, des cellules immunitaires sont activées, et une des choses qu'elles font, c'est de produire des facteurs qui vont directement agir sur des fibres nerveuses qui vont déclencher de la douleur. Les prostaglandines, PGE2, ont également été montrées comme étant clés. Et donc j'ai juste représenté ici Robert Givain qui a vraiment mis en évidence le rôle des prostaglandines, même s'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont participé à ces études, parce qu'en fait, de mettre en évidence que cette molécule était clé a aussi permis de comprendre comment marchait l'aspirine. L'aspirine cible des enzymes qui permettent la production de la prostaglandine et c'est comme ça que l'aspirine a un effet antidouleur et légèrement anti-inflammatoire. Et puis, d'autres molécules ont été identifiées aussi. Ce sont des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 6, interleukine 1-bêta, et donc des molécules qui, elles, vont avoir un autre type d'effet, ne vont pas directement agir sur les fibres nerveuses. Mais l'identification de ces messagers moléculaires a permis déjà de montrer qu'il y avait des facteurs produits par les cellules immunitaires qui agissaient directement sur des nerfs pour promouvoir la douleur. Alors l'identification des molécules produites par les cellules immunitaires dans un contexte d'inflammation a eu aussi un autre effet. C'est que finalement, on a pu regarder ce qui se passait au niveau de ces molécules. Et ce qu'on a découvert, en fait, et là encore, c'est dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est que finalement, face à ce processus d'inflammation aiguë, qui peut être résolu, on a une lésion, une infection, une allergie, une piqûre, quelque chose. Finalement, on avait aussi de nombreux cas où on avait ce qu'on appelle une inflammation chronique, c'est-à-dire une inflammation persistante qui peut être silencieuse, qui n'est pas nécessairement visible comme ce qu'on peut voir ici, avec finalement une caractérisation ou associée à la production, pas forcément au même niveau, mais la production de ces mêmes types de cytokines inflammatoires qui, de manière beaucoup plus limitée, va produire une réaction inflammatoire à bas bruit. Et on a différents marqueurs. Et ça, c'est important, c'est essentiel, parce qu'en fait, on s'est aussi rendu compte qu'on retrouvait une inflammation chronique, à bas bruit, silencieuse, dans un grand nombre de pathologies, mais également dans des contextes de vieillissement, même de vieillissement non pathologique normal. Donc ces maladies, le spectre des maladies dans lesquelles on a une inflammation chronique est absolument... C'est citer quelques exemples, mais des maladies auto-immunes, métaboliques, des maladies chroniques de l'intestin, donc ça, on verra ça l'année prochaine, qui sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies vasculaires, mais aussi, comme on l'a vu, des maladies neurodégénératives, etc. Donc il existe une inflammation possiblement à bas bruit associée à ces cytokines inflammatoires. Un autre aspect finalement dans l'étude de l'identification de ces cytokines inflammatoires qui sont produites par les cellules du système immunitaire a été autre. Ça a été de comprendre ou d'étudier ce qui s'est appelé ou ce qui s'appelle encore le comportement de maladie. Alors, de quoi je parle ici ? Donc, quand on a une infection bactérienne, une infection virale, on peut avoir une réponse immunitaire locale, une inflammation systémique présente dans toute la circulation, mais on peut avoir aussi associé différents symptômes. La fièvre, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir quel que soit finalement le site d'infection ou d'inflammation, donc c'est des choses systémiques, et ce qui a été appelé le comportement de maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que le comportement de maladie ? C'est un ensemble de réponses comportementales qui vont de la perte d'appétit, la somnolence, diminution de l'activité physique, le retrait social, la perte d'intérêt, les douleurs ou sensibilité accrue, troubles de la concentration, irritabilité, humeur dépressive, etc. Et pendant extrêmement longtemps, ce comportement de maladie est quelque chose qui a été observé chez les êtres humains, mais également chez les animaux. C'est un exemple que je reprends souvent, mais on dit toujours il ou elle est malade, et on fait référence à un ensemble de symptômes comportementaux qui sont bien définis ou bien caractérisés ou bien connus, et on peut voir ça aussi encore une fois chez un grand nombre d'animaux. Et c'est vraiment lié à cet ensemble de perturbations ou de modifications comportementales et de la physiologie globale. Et donc pendant très longtemps, on a pensé que ce comportement de maladie était lié finalement directement à l'infection virale. Et ce qui a été très bien montré notamment par Robert Danzer, qui sera là le 20 juin, et d'autres, c'est qu'en fait, il y a tout d'abord, il y a d'autres voies, mais un rôle clé des cytokines inflammatoires produites par les cellules immunitaires, notamment de l'immunité innée en réponse aux bactéries et aux virus, des cytokines inflammatoires qui vont médier ces différents effets. Donc la barrière hémato-encéphalique, elle est plus perméable en différents endroits, on verra ça la semaine prochaine, et ces différentes cytokines peuvent agir directement sur le cerveau pour induire la fièvre, pour induire le comportement de maladie et différentes modulations de la voie du stress. Et donc ça, encore une fois, ça permettrait vraiment de montrer que l'inflammation ou l'infection pouvait avoir un effet pas uniquement sur les fibres de la douleur de manière locale, mais sur une réponse comportementale intégrée liée aux fonctions cérébrales. Donc c'est ce qu'on appelle la voie humorale, c'est-à-dire une voie qui passe par la circulation systémique. Et il y a également une voie nerveuse, c'est-à-dire qui passe par une interaction par un nerf du système périphérique, qui est notamment le nerf vague. Et on verra exactement, je reparlerai un petit peu aujourd'hui, mais on verra le nerf vague notamment dans le cours prochain. Donc ça, finalement, ces études liées vraiment à la compréhension de l'inflammation ont permis de montrer qu'il y avait, c'était vraiment un dialogue. Quand je dis un dialogue, c'est-à-dire des interactions croisées vraiment entre les deux systèmes. Des signaux inflammatoires qui vont être importants pour directement activer ou sensibiliser les fibres nerveuses impliquées dans la douleur, mais aussi des signaux inflammatoires qui vont pouvoir avoir un effet sur des comportements en passant ou en agissant directement sur des circuits cérébraux. Et ça, ça passe par des signaux locaux, par exemple, dans la région où on a une infection, une inflammation, une réponse locale inflammatoire, mais aussi par des signaux systémiques qui peuvent aller directement agir sur le cerveau et déclencher de la fièvre ou un changement de comportement. Je suis en train de dire que j'ai fait une erreur. Voie nerveuse. On a aussi des voies nerveuses qui peuvent relayer ces informations jusqu'au cerveau. Alors, les études sur l'inflammation ont permis d'aborder d'autres problématiques qui étaient finalement, est-ce qu'il y a d'autres voies d'interaction entre le système nerveux et le système immunitaire. Et là, encore une fois, toute une série d'études au cours du XXe siècle se sont vraiment intéressées au stress. Donc j'ai parlé du stress, sans parler des grandes voies, mais j'ai parlé du stress. Au stress comme un modulateur de la réponse immunitaire. Et le stress, c'est vraiment un ensemble de réponses on va dire un ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter. On va voir très brièvement les voies et on y reviendra la semaine prochaine. Mais le stress a vraiment été identifié comme étant un facteur modulateur de la réponse immunitaire. Alors les grandes voies du stress, qu'est-ce que c'est ? On a un axe qui fait intervenir différents chemins. Enfin, encore une fois, on y reviendra la semaine prochaine. Mais qui aboutissent à la production d'adrénaline dans des contextes, par exemple, de peur ou des réactions particulières. Et on va avoir une autre voie qui passe cette fois-ci par un autre circuit, par l'hypothalamus, avec des neurones qui vont produire des facteurs circulants. Et ça va permettre d'agir sur une autre région de ces petites glandes des surrénales qui vont permettre la libération de cortisol. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que les études sur le stress ont permis de montrer que cette voie pouvait avoir un effet mobilisateur du système immunitaire. C'est ce qui fait que quand vous avez par exemple une période d'examen où vous avez une mobilisation accrue, en général votre système immunitaire est plutôt boosté. Et puis dans un deuxième temps, puisqu'ici il s'agit d'un rétrocontrôle, une boucle un petit peu plus lente, dans un deuxième temps, on va avoir un effet qui est lié à la production de cortisol, qui a un effet cette fois-ci immunosuppressif. Alors, cet effet immunosuppressif, ce qui est intéressant, c'est que quand on a découvert cette production de cortisol, ça a permis enfin de comprendre pourquoi est-ce que les glucocorticoïdes, la cortisone, que vous avez sûrement déjà pris, a un effet anti-inflammatoire. En fait, le cortisol est l'équivalent endogène de ces glucocorticoïdes et va agir sur des récepteurs aux glucocorticoïdes qui sont présents sur un ensemble de cellules et avoir donc un effet anti-inflammatoire. Donc le stress, par deux axes différents, peut avoir un effet immunomodulateur. Et donc, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que tous ces effets sont bien sûr absolument inconscient. Ce ne sont pas des choses qui sont, même si elles sont médiées par une réponse qui vient du cerveau et qui passe par différentes voies, on est dans quelque chose qui est complètement inconscient. Donc l'effet que le système nerveux et le cerveau peuvent avoir sur la modulation du système immunitaire n'est bien sûr pas quelque chose qu'on peut véritablement manipuler ou moduler de manière consciente. C'est très important, notamment quand on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir des appels à certaines, comment dire, à certaines, pas médecines parallèles, mais à des approches qui peuvent permettre de reposer sur l'idée que, en jouant sur des aspects conscients de la modulation de nos cerveaux, on pourrait obtenir des résultats formidables sur la modulation de l'immunité sans véritablement suivre de traitements médicaux. Bien sûr, il ne s'agit absolument pas de ça. Ici, on est dans un cadre où le cerveau, et via le stress, agit sur la réponse immunitaire de manière totalement inconsciente et donc non véritablement manipulable par la pensée. Donc une première étape qui était vraiment de dire finalement le cerveau et via les voies du stress peut moduler ça. Et puis finalement dans la suite des travaux de Pavlov, et en fait c'est des travaux qui ont commencé dans les années 20, mais qui ont été vraiment repris et redéveloppés dans les années 70, on s'est rendu compte que finalement, de la même manière qu'avec un steak et le son d'une cloche, on pouvait conditionner la réponse immunitaire. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui, entre guillemets, ont ouvert une perspective vraiment établi que le cerveau pouvait avoir un effet sur la réponse immunitaire. C'est notamment l'expérience d'Ader et Cohen, où en fait, ils ont montré qu'ils pouvaient conditionner une réponse d'immunosuppression. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé un stimulus inconditionnel, qui est un immunosuppresseur, et qui crée une aversion gustative, et ils ont associé ça à un stimulus neutre, l'eau sucrée. Et après le conditionnement, ils se sont rendus compte qu'en donnant uniquement de l'eau sucrée, ils étaient capables d'obtenir une immunosuppression. Donc une immunosuppression qui était un petit peu plus faible que ce qu'ils obtenaient dans le contexte, bien sûr, d'une immunosuppression liée aux médicaments donnés, mais une immunosuppression tout de même. Donc on est capable de moduler une réponse immunitaire et de conditionner une réponse immunitaire, ce qui montre bien que le cerveau est capable de moduler les réponses immunitaires. Ça ouvre la question aussi de l'effet placebo dans certains contextes, qui est un effet qu'on comprend encore relativement mal, mais qui fait l'objet d'un grand nombre d'études à l'heure actuelle. Donc là, on est dans les années 70-80, et ça a ouvert vraiment la porte au développement d'une nouvelle science, la psychoneuroimmunologie, Brain Behavior and Immunity, qui est un nouveau journal, qui était vraiment d'essayer de comprendre les liens entre le cerveau, le comportement et la réponse immunitaire. Et donc là, on se rend compte qu'on a vraiment, dès la fin du XXe siècle, tout un schéma qui nous permet de montrer qu'on a des interactions croisées entre ces deux systèmes, aussi bien au niveau local, au niveau central, au niveau systémique, au niveau de l'interaction avec les nerfs. Et il y a un dernier, on va dire, grand bouleversement avant la fin du XXe siècle, avant 2000, qui a été vraiment la découverte de ce qui a été appelé le réflexe immunitaire par Kevin Tracy notamment, qui a en fait, en travaillant sur ce qui s'appelle la sepsis, c'est-à-dire une très forte et très dérégulée réponse immunitaire dans un contexte d'inflammation. Donc c'est pas la septicémie. La septicémie, c'est quand on a vraiment des bactéries qui sont présentes dans le sang. Donc on peut avoir une sepsis liée à une septicémie, mais c'est vraiment deux choses différentes. Donc un sepsis, une situation de sepsis, c'est vraiment une réponse inflammatoire extrême et démesurée. Et qu'est-ce que ce sepsis peut induire? Il peut induire finalement, on va dire, des malfonctionnements de tous les différents organes et de manière ultime vraiment conduire à la mort de l'individu. Et donc en étudiant vraiment ce qui se passait dans ce contexte-là, ce que Kevin Tracy a pu mettre en évidence, c'est la capacité anti-inflammatoire très forte du nerf vague. Donc il y a un nerf qui innerve une grande partie des organes. Et il a pu montrer que en fait, cet effet anti-inflammatoire très fort passait par un relais nerveux ici qui allait diminuer la réponse inflammatoire périphérique et ceci passant par une diminution de la production de cytokines. Il a appelé ça réflexe anti-inflammatoire, réflexe immunitaire, parce qu'en fait, le nerf vague a différentes voies, différentes fibres, et qu'en fait, c'est la production de cytokines dans différents organes qui peut remonter au nerf vague, et via différents chemins, on va avoir cette réponse anti-inflammatoire extrêmement rapide et extrêmement forte. Et aujourd'hui, il a développé, suite à toutes ces découvertes, l'hypothèse, ou en tout cas l'ouverture de la stimulation du nerf vague pour moduler l'inflammation périphérique. Il vient de sortir un livre, je ne suis pas sûre qu'il soit encore traduit, qui s'appelle The Great Nerve, où vraiment il met en contexte cette stimulation du nerf vague pour moduler la réponse inflammatoire. Donc on avait des interactions croisées entre système nerveux et système immunitaire, et on arrive en 2000 avec véritablement des interactions croisées dans les deux sens, des signaux inflammatoires qui peuvent influer sur la douleur, sur le comportement de maladie, et le cerveau ou le stress qui peut agir vraiment en régulant la réponse immunitaire, tout ça par des voies humorales, des signaux locaux et systémiques. Et ça a ouvert véritablement un champ énorme de recherche et de travaux, on va dire, entre ces 20, 10, 5, 4 dernières années. Ce champ est véritablement en explosion pour essayer de comprendre, de disséquer véritablement comment est-ce que ces deux systèmes interagissent au niveau local, au niveau systémique, l'influence du cerveau, ce qui se passe en périphérie. Et alors pourquoi est-ce que finalement cette espèce d'explosion d'études et le fait qu'on commence véritablement à disséquer ces interactions a lieu aujourd'hui et pas finalement il y a 50 ans, alors qu'on avait déjà finalement beaucoup d'informations qui permettaient de soupçonner ou en tout cas d'établir qu'il existait ce dialogue neuro-immunitaire. Et là je vais faire un tout petit détour parce que quand on va s'intéresser à ce qui s'est passé récemment, on va aborder des articles scientifiques et donc je voudrais parler de certains développements technologiques qui ont permis de disséquer toutes ces voies. Donc ça va être un peu plus technique, mais je pense que c'est très important parce que finalement, c'est grâce à ces avancées technologiques qu'on a pu disséquer les différentes voies, ces 20 dernières années. Alors, vraiment, la biologie, la neurobiologie, l'immunologie a bénéficié d'un grand nombre de techniques qui permettent de tracer, marquer, d'identifier les cellules du tissu à l'organisme. C'est-à-dire que maintenant, on peut isoler les cellules, regarder tous les gènes qu'elles expriment grâce à ce qu'on appelle la transcriptomique, donc l'ensemble des gènes qu'elles expriment. On peut regarder, on peut les marquer grâce à la génétique chez la souris, mais dans d'autres espèces également. On peut regarder toutes les interactions cellulaires, etc. Dans le contexte du système nerveux spécifiquement, il y a des avancées qui ont été vraiment clés. Il y a une petite révolution sur la capacité à suivre, détecter, manipuler l'activité des neurones qui a été centrale finalement pour ces différentes études. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, je vous ai dit, la transmission se fait par des modulations électriques, mais en fait, on a pu commencer à voir l'activité en regardant des marqueurs indirects de cette activité électrique. On a maintenant des sondes qui permettent de voir le voltage, qui changent en fonction du voltage et grâce à des modifications ou à des adaptations d'une microscopie toujours plus puissante, où on peut aller regarder dans les tissus, microscopie biphoton, une imagerie, une miniaturisation, on peut aller regarder de manière beaucoup plus précise ce qui se passe. On peut utiliser le calcium et un facteur dont on va parler qui est important, c'est ce gène, CFOS, C'est un gène dont l'expression est modulée par l'activité. Ça, j'y reviendrai. La manipulation de cette activité a vraiment été extrêmement, on va dire, la capacité de moduler l'activité dans les circuits en visant des neurones spécifiques situés à des endroits spécifiques qui ont des propriétés spécifiques a été totalement révolutionnée aussi récemment. Et notamment, l'utilisation de certaines opsines ont permis de faire ce qu'on appelle de l'optogénétique, c'est-à-dire qu'en mettant de la lumière sur ces canaux ou sur ces opsines qui viennent de différentes espèces, elles peuvent être microbiennes, elles peuvent venir d'autres espèces, on est capable, grâce à la lumière, de déclencher l'ouverture de ces opsines et donc d'induire, par exemple, une activité électrique. On est à l'inverse capable, avec d'autres lumières, sur d'autres molécules, de ce qu'on appelle silencer des neurones, c'est-à-dire bloquer la propagation d'une activité électrique. Et maintenant, on peut cibler de manière anatomique différents circuits et activer ou silencer certains neurones que l'on aura choisi de cibler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optogénétique. On peut manipuler l'activité avec la lumière. Mais il y a d'autres types de canaux qui ont été utilisés qui s'appellent des DRED. Donc c'est de la chémogénétique. Ce sont des récepteurs qui, au départ, sont des récepteurs qui reconnaissent l'acétylcholine, des récepteurs muscariniques, et qui ont été modifiés pour reconnaître un autre composé. Ici, j'en reparlerai, c'est le CNO. Et donc, quand on produit ou on amène ce composé moléculaire, on est capable d'activer des neurones ou de les silencer. Et donc, en fonction du composé qui est apporté, en fonction du récepteur qui est présent, si on amène ce composé, à un moment donné, on peut activer des neurones ou les silencer. Donc ces approches optogénétiques, la lumière, ou chémogénétiques, en apportant des composés moléculaires, vont être capables de nous permettre de moduler l'activité de ces neurones. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'on peut aussi maintenant cibler des neurones particuliers grâce au développement d'autres techniques. Je vais parler de la génétique de la souris, je vais vous montrer des exemples. Mais une chose qui est très importante et qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu tout un développement d'outils viraux qui ont permis soit d'amener ces molécules dans différents neurones, soit de tracer des circuits. On a utilisé des virus neurotopiques qui vont être capables de marquer certains neurones avec des marquages qui se propagent le long, par exemple, de l'axone. On peut faire une injection d'un virus ici et regarder la projection de ce neurone. À l'inverse, injecter à l'endroit de la terminaison et identifier le neurone qui fait une projection. Donc, ce sont des marquages ici qu'on peut appeler antérogrades ou rétrogrades. Et ça a permis, en utilisant des neurones, des virus qui peuvent soit marquer un seul neurone, soit marquer des circuits complets, d'identifier des voies particulières. Et ça, ce sont des travaux, 2020, ce sont des travaux qui sont vraiment extrêmement récents et qui ont permis d'amener, par exemple, ces facteurs qui permettent de voir ou de manipuler l'activité ou de tracer différents circuits dans différents types d'animaux. Alors, les rongeurs, qu'on utilise beaucoup, la souris, qu'on utilise beaucoup dans les approches dont j'ai parlé, parce que ce sont des bons modèles génétiques qui permettent la manipulation, mais maintenant ces différents virus peuvent permettre de cibler énormément d'espèces différentes. Donc on peut manipuler les neurones, on peut les manipuler de manière spécifique, et ici on va pouvoir utiliser ce gène CEPHOS pour effectuer ce que l'on appelle un trap. Pour, en français, les attraper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi est-ce que ça a été important dans les études liées au domaine qui vraiment nous intéresse, qui est de comprendre comment certains comportements vont modifier l'activité neuronale ? Donc, je vous ai dit, dans des contextes d'activité neuronale, on va avoir des ensembles de neurones qui vont être actifs et qui vont se mettre à exprimer ce facteur. Ce facteur, c'est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un contexte, par exemple, d'un comportement particulier ou d'une réaction particulière d'un animal, on va pouvoir utiliser cette propriété pour marquer ou identifier et manipuler des neurones qui sont actifs à ce moment-là. Donc là encore, on est dans des travaux qui sont très récents. Donc qu'est-ce qui a été utilisé? Donc ce gène, c'est fausse ici. Donc c'est un gène dans une région chromosomique chez la souris. Qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Ils ont placé dans ce gène une molécule qui s'appelle la cré-recombinase modifiée. Alors, comment est-ce que ça marche? Ici, on a une... Donc, je vais commencer par la craie normale, non remodifiée. C'est une enzyme qui est une enzyme au départ bactérienne, importante dans l'immunité bactérienne, qui est capable de reconnaître deux sites, des sites LOXP, et d'enlever le fragment d'ADN présent entre ces deux sites. Et donc, on peut utiliser cette craie, par exemple, pour induire l'expression d'un marqueur fluorescent et donc marquer des cellules ciblées dans lesquelles cette craie est exprimée. Dans les neurones dans lesquels cette craie est allumée, on va avoir recombinaison et donc expression maintenant d'un marqueur fluorescent. Donc si par exemple des neurones sont actifs et qu'on a une craie qui s'exprime sous le contrôle du gène CFOS, au moment où ces neurones vont être actifs, on va avoir recombinaison et donc expression d'une molécule fluorescente et ces neurones vont être marqués. Okay ? Maintenant ça, à ce moment-là, on peut avoir ça de manière, on va dire, à peu près tout le temps. Donc, pour utiliser un système beaucoup plus particulier, les chercheurs ont utilisé une craie modifiée qui permet une inactivation temporelle, c'est-à-dire la craie est associée à une version modifiée du récepteur aux estrogènes qui est normalement maintenue à l'extérieur du noyau où il y a les chromosomes et donc la recombinaison, les différents gènes potentiels qui peuvent être recombinés, et en présence d'une molécule, le tamoxifène ou l'hydroxytamoxifène, cette craie modifiée peut rentrer dans le noyau et là, elle peut induire de la recombinaison. Ok ? Donc, qu'est-ce que cette technique a permis ? Elle a permis, cette craie modifiée, quand on met cette craie modifiée sous le contrôle du gène ou de l'expression du gène CFOS, on va, et qu'à un moment donné, on donne du tamoxifène, on va pouvoir très transitoirement marquer, soit de manière fluorescente, soit par exemple cibler l'expression d'un gène qui va permettre d'activer ou de silencer certains neurones dans des neurones qui ont été actifs au moment où on a donné du tamoxifène. Vous êtes tous là ? C'est un peu compliqué. Mais l'idée et la chose importante, c'est de savoir que ces développements technologiques ont permis des choses. Et je vais vous montrer de manière précise ce que ça permet dans un contexte qui est le contexte du comportement de maladie. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai présenté ça. Je vous ai dit, on sait que les molécules inflammatoires agissent et que, hop, ça induit du comportement de maladie. Ça, on le sait parce que quand on injecte des cytokines, on voit bien qu'on induit du comportement de maladie. Mais ce qui se passe après dans le cerveau, dans les circuits cérébraux, était quelque chose qu'on ne comprenait absolument pas. Par quel circuit exactement les différents aspects du comportement de maladie étaient induits, était quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et donc, par exemple, c'est un exemple très récent. Encore une fois, tous ces travaux qui ont permis vraiment, qui permettent de disséquer ces interactions neuro-immunitaires, qu'est-ce qui se passe, sont des travaux très récents. Je vais vous donner un exemple d'un papier du laboratoire de Catherine Dulac pour vous montrer comment ces approches permettent de comprendre ça. Donc l'idée, c'était de disséquer ou d'identifier les neurones dans les circuits cérébraux qui vont être responsables dans ce contexte-là, de la fièvre ou du changement d'appétit pendant ce comportement de maladie. Donc, qu'est-ce que les chercheurs ont fait ? Ils ont mimé une infection bactérienne en injectant un composé, qui est le LPS, qui est un composé de la membrane des bactéries gram-positives, et ils ont attendu que la fièvre monte. Okay ? Ils ont regardé, ils ont vérifié que la fièvre monte. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit là, la température augmente, donc on injecte du LPS, etc. On peut voir que la fièvre monte et regarder la temporalité. Donc, on peut vérifier la temporalité à laquelle la régulation de la température a lieu. Et qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cas-là ? On peut regarder de manière assez vaste l'ensemble des neurones, je vous ai dit, qui se mettent à exprimer ce gène, c'est faux, qui est caractéristique d'une activation soutenue de différents neurones. Comme, quand même, on a vu qu'ils ont pu voir qu'il y avait des activations ou une augmentation de la quantité de neurones céphos dans un grand nombre de structures du cerveau, mais pour le coup, on savait déjà qu'une des régions clés, c'était l'hypothalamus, une région particulière du cerveau, et donc les chercheurs ont pu se focaliser sur cette région particulière, mais là vous voyez, il y a énormément de populations et de petits noyaux de cellules, donc ils ont commencé à regarder, et là, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y avait des neurones céphos en particulier qui s'activaient, ou qui étaient des neurones qui se mettaient à exprimer céphos dans un contexte d'activation. Donc comment tester si vraiment ce sont ces neurones qui sont importants ? Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la souris dont je vous ai parlé, la souris TRAP, c'est-à-dire qu'ils ont, je vais revenir là-dessus, ils ont, pendant un moment donné, il y a eu donc activité, expression de cette craie, parce qu'il y a de la céphose, ils ont donné du tamoxifène pendant cette phase d'activation. Donc dans le contexte dans lequel on est, c'est de la fièvre et un comportement de maladie. Et ils ont fait ça dans un contexte où il y avait un autre allèle qui permettait de marquer en rouge ou qui permettait d'exprimer un gène permettant de moduler l'activité de ces neurones, etc., etc. Et ce qu'ils voient dans ce contexte-là, c'est qu'ils sont capables, en LPS TRAP, de marquer ici les neurones qui sont présents dans ce petit noyau de l'hypothalamus qui s'appelle VMPO. Donc ils ont pu confirmer que les neurones qui étaient marqués en TRAP étaient bien des neurones qui exprimaient ces fausses. Et ce qu'ils ont pu faire par la suite, dans un premier temps, c'est de faire, remimer ce processus. Et cette fois-ci, au lieu d'exprimer uniquement la tomato, ils ont injecté un virus qui leur a permis d'exprimer ce canal, qui leur permet, quand ils donnent du CNO, d'induire l'activité des neurones. Donc ils font cette procédure, ils mettent du LPS, on a un comportement de la maladie, de la fièvre, on peut marquer ces neurones, et puis les marquer, et puis les infecter par cette... Et puis on laisse tout le système se rétablir, l'animal va bien, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Et là, on donne du CNO, et donc c'est ce qui est montré ici, et on regarde ce qui se passe. Et ce qu'ils voient ici, c'est que d'activer spécifiquement ces neurones est suffisant pour déclencher une augmentation de la température chez ces animaux. Donc grâce à des outils moléculaires extrêmement précis qui permettent de manipuler des neurones actifs à un moment donné dans un contexte comportemental donné en utilisant ces fausses, en les attrapant, et ensuite en utilisant des outils pour activer ou silencer ces neurones, on a pu très précisément commencer à disséquer les voies et les neurones impliqués dans tel et tel aspect du comportement de maladie, aller regarder dans un système périphérique qu'est-ce qui se passait exactement. Et sans cette précision de manipulation, en fait, on ne pouvait pas jusqu'à présent véritablement comprendre ces interactions entre cellules, on va dire, signaux immunitaires et circuits neuronaux. Alors un autre aspect ici, par exemple, Ce qu'ils ont fait, c'est que cette fois-ci, ils ont éliminé ces neurones. Et dans ce contexte-là, quand on élimine ces neurones, parce qu'on peut le faire, encore une fois, en attrapant, on voit que même si on injecte du LPS, on n'a absolument pas de déclenchement de fièvre. Alors, en manipulant ces mêmes populations neuronales, maintenant, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment essayé de disséquer si ces mêmes neurones pouvaient être impliqués dans d'autres aspects du comportement de maladie. Est-ce que, donc, il y a d'autres aspects, il y a aller vers le froid, aller vers le chaud, il y a manger, etc., etc. Et donc, ils ont pu faire toute une série d'expériences où, très sélectivement, ils ont manipulé cette population de neurones, cette toute petite population de neurones dans l'hypothalamus, et ils ont pu voir que, non seulement elle était essentielle pour la fièvre, mais elle était essentielle pour réguler, par exemple, la prise alimentaire et l'appétit. Je vais vous épargner les détails, mais néanmoins, ce qu'ils ont pu faire aussi avec d'autres traceurs viraux, c'est d'aller regarder vers quelles autres régions ces neurones ou circuits projetaient, et puis identifier quelle était la fonction particulière des différents noyaux dans le cerveau, ou des différents types de neurones dans le cerveau vers lesquels ces différentes régions projetaient, et donc disséquer toute une circuiterie qui, à la fin, est responsable d'un comportement intégré. Ok, et donc là, on arrive un peu au résumé, où ils ont pu montrer que donc, ces petits neurones sont essentiels pour certains aspects, la fièvre, la recherche de chaleur, mais aussi la suppression de l'appétit, et que finalement, ils agissent sur ces différents aspects en contactant d'autres neurones ou d'autres circuits qui vont être spécifiquement impliqués dans l'une ou l'autre de ces réponses comportementales. Et donc, en fait, c'est vraiment, on va dire, la convergence entre un socle acquis, on va dire, en 2000, sur le fait qu'il existait des interactions entre le système nerveux et le système immunitaire au travers de tout ce que je vous ai montré, et ce développement technologique clé qui permet d'aller manipuler certaines cellules, certains neurones, et d'aller disséquer tout ça, qui a permis vraiment cette communication neuro-immunitaire et d'apporter des réponses très précises sur ce qui se passe. Alors, je vais finir rapidement sur pourquoi est-ce que, finalement, c'est important de prendre en considération ces interactions neuro-immunitaires. Finalement, on pourrait se dire, pendant très longtemps, on a étudié le système nerveux, le système immunitaire, sans véritablement se demander comment ils interagissent. Pourquoi est-ce que c'est important? Ou pourquoi, en tout cas, est-ce qu'on peut penser que c'est important? Donc, alors, je vous ai parlé des pathologies. Il y a effectivement un grand nombre de pathologies dans lesquelles on a une inflammation à bas bruit. On a une contribution de cette inflammation au processus pathologique. Donc, comprendre d'où cette inflammation vient, quels sont les effets de manière comportementale est bien sûr essentiel. Mais sur un plan un petit peu plus conceptuel, pourquoi est-ce que ces deux systèmes interagissent et qu'est-ce que l'interaction leur apporte ? Donc la première chose, c'est qu'en fait, cette distinction, c'est nous qui l'avons mise sur des réponses qu'on peut considérer comme étant complètement intégrées. À l'échelle du tissu, à l'échelle de l'organisme, en fait, l'organisme répond, et nous, on considère qu'une partie est neurale et une partie est inflammatoire, mais finalement, aussi bien dans le contexte de l'inflammation, dans le contexte d'une réponse à une infection, le comportement de maladie dans un contexte d'une infection virale ou celui du stress, on a affaire à des réponses qui sont extrêmement intégrées et qui, dès le début, c'est une réponse de l'organisme entier face à une situation, une menace, une anticipation, une récompense, une adaptation. Et donc, il y a toujours plusieurs éléments qui sont importants. Et donc, il est bien sûr important que ces deux systèmes, qui sont encore une fois clés, soient coordonnés, entre guillemets, pour le bien de l'organisme. Et un des aspects, c'est qu'en fait, cette coordination, elle est très importante parce que ces deux systèmes s'inscrivent dans des temporalités très différentes. Donc, je vous ai dit, la réponse neuronale, c'est quelque chose qui peut être rapide, qui a une capacité de mémoire, mais qui a aussi une capacité d'anticipation. Le système immunitaire, comme on l'a vu, c'est un système qui est extrêmement lent et qui est lent parce qu'il a des freins. Parce que s'il n'a pas de freins, on peut aboutir à des situations pathologiques comme l'auto-immunité. Donc en fait, l'interaction entre ces deux systèmes va pouvoir être essentielle dans des contextes où il va falloir réguler la rapidité de réponse. Dans un contexte, par exemple, de stress aigu face à une menace, le stress va être capable de mobiliser un système immunitaire qui, par essence, est un système qui agit de manière lente. Dans un autre contexte, par exemple dans celui de la sepsis, quand on a une inflammation qui est totalement submergente pour le système, on va pouvoir avoir une réaction très rapide, en particulier par le nerf vague, par ce réflexe immunitaire, qui va silencer ou avoir un effet anti-inflammatoire extrêmement rapide. Et là, on voit que l'interaction entre guillemets, entre le cerveau et le système immunitaire va permettre, finalement, va apporter quelque chose à la réponse immunitaire en le modulant dans le temps avec des capacités que normalement il ne peut pas avoir. Un autre aspect, finalement, c'est l'aspect d'anticipation. J'en ai un petit peu parlé. Dans un contexte d'anticipation, l'organisme peut être préparé via le stress. Et ça, c'est quelque chose que le système immunitaire ne peut absolument pas faire seul. Le système immunitaire peut faire face à des lésions, à des pathogènes, à des bactéries commensales, à énormément de choses, mais il fait face à une situation à un temps donné. Entre guillemets, quand on fait des vaccinations, justement, c'est une manière de détourner sa capacité d'anticipation qui est finalement qu'il a une capacité de mémoire et que donc on utilise cette capacité de mémoire pour le rendre anticipateur. Mais au départ, il ne fait que face à des infections, il ne fait qu'apprendre et il répond en fonction de ça. Et donc là, finalement, le système nerveux, via le stress, l'anticipation positive, ce qu'on a vu dans le conditionnement de la réponse immunitaire, mais aussi dans des contextes finalement de mémoire, le système nerveux ou le cerveau va pouvoir apporter et affiner la réponse immunitaire dans ce contexte-là. Et puis bien sûr, ce dont on se rend compte, c'est que tout ce qui va être réponse immunitaire, et tout ce qu'on a vu, c'est que la réponse immunitaire, de manière globale, va avoir un effet majeur sur le comportement, sur les réponses comportementales adaptées et sur des choses intégrées comme par exemple la douleur. Et on sait aujourd'hui dans le système nerveux périphérique par rapport à l'inflammation qu'il y a ce qu'on appelle la douleur inflammatoire qui peut être liée à une infection ou à une inflammation aiguë mais qui peut persister dans des contextes d'inflammation chronique et latente. Et que donc le système immunitaire va directement influer aussi bien sur des choses très périphériques comme la douleur, la perception de la douleur, que sur des aspects beaucoup plus intégrés qui peuvent être dans le contexte du comportement de maladie, le sommeil, la capacité de l'individu à répondre par rapport à une prise alimentaire, un intérêt, etc., etc. Donc dans ce cours, pour terminer, vraiment ce qu'on a vu, c'est que un grand nombre d'études ont vraiment montré qu'il existait des régulations croisées entre des signaux inflammatoires périphériques et systémiques, la douleur, le comportement de maladie, et à l'inverse, que le cerveau, le stress, pouvait avoir un rôle clé dans la régulation immunitaire. On a vu que finalement un grand nombre de travaux avaient mis en évidence l'existence de ce dialogue tout au long, on va dire, du XXe siècle et que aujourd'hui, depuis 5, 10, 15, 20 dernières années, on a une explosion finalement de la compréhension de ces mécanismes d'interaction. Ça passe par différentes voies, humorales, systémiques, locaux. Il faut comprendre comment est-ce que ces deux systèmes peuvent se parler, quelles sont les bases véritablement du dialogue à l'échelle cellulaire, moléculaire, des circuits, des cellules. Et donc ça sera le sujet du cours de la semaine prochaine. On va vraiment regarder comment est-ce que les neurones et les cellules immunitaires dialoguent, les cytokines, les interactions avec les neurotransmetteurs, les différents nerfs, les différentes voies, et comment est-ce que ces interactions sont médiées en contexte physiologique et pathologique. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.